avant de retrouver la séquence du médiateur, aujourd'hui, traditionnellement le jeudi, un peu avancé pour des raisons que nous ne vous dévoilerons pas, quelques minutes en tout cas avant 13h30. Dans l'actualité des idées ce midi, à l'occasion de la parution de Prison de France, ce n'est pas un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, c'est une enquête menée dans 4 grandes prisons françaises, Fleury, Fresnes, Sequedin, près de Lille, dans le Nord, et Saint-Maur, par un sociologue de terrain, directeur d'études à l'EHESS et directeur de l'Observatoire de la radicalisation à la Maison des sciences de l'homme. Une fois encore, Farhad Khosrokhavar est parti à la rencontre des détenus et des surveillants, des médecins et des directeurs d'établissements. Tous témoignent de leur quotidien en milieu carcéral, ce qu'il implique et ce qu'il génère. Entre violence, promiscuité, manque d'hygiène, à cela est venu s'ajouter un phénomène qui n'est pas nouveau, même si on nous le présente comme tel, souvent encore aujourd'hui, mais qui, pour de bonnes raisons, est devenu sûrement le problème du moment, la question de la radicalisation. La prison, terreau fertile et vivier de recrutement. Violence, radicalisation, déshumanisation, qu'est-ce que la prison dit de notre société? On va en parler avec vous, Farhad Khosrokhavar, bonjour.
Bonjour.
Puisque vous êtes notre invité jusqu'à presque 13h30. Une question préalable, celle que l'on pose à tous nos invités. Alors, question aux sociologues ou aux citoyens, comme vous le souhaitez. Comment allons-nous?
Comment allons-nous?
Oui.
Plutôt mal. J'ai l'impression qu'on est dans une société qui a été profondément traumatisée par les attentats, qui a du mal à démarrer sur le plan économique et qui a un vrai problème lié à la gestion de la société au niveau macro comme micro. Je vous donne un exemple. J'ai fait un livre, fini un livre avec Michel Wieworka sur ce qu'on pourrait appeler une vision néo-républicaine. Comment faire pour que des groupes sociaux, mettons, pour mettre le pied dans le plat, les juifs et les musulmans s'entendent? Ils ne s'entendent pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un désamour quelquefois trop actif. Un rejet mutuel, des formes d'acrimonie, sentiment d'injustice de la part des uns et des autres. On a essayé de penser à partir de cette espèce d'affrontement et d'incompatibilité, du moins actuelle, une vision nouvelle de la société, de la République, de la laïcité, de la démocratie. C'est ça. Je pense que le constat est quand même que on est face à un certain nombre de problèmes qui a une double crise. La crise de ce qu'on pourrait appeler le modèle multiculturel anglo-saxon. En Angleterre, vous allez, ils vous diront, ça ne va pas. En France, le modèle laïque républicain, beaucoup de gens pensent que ça ne va pas, d'où un fondamentalisme laïque, comme en Angleterre aussi, un fondamentalisme quelquefois multiculturaliste ou anti-multiculturaliste. Je veux dire, des formes de polarisation qui ne sont pas bon signe dans une démocratie et surtout absence de sérénité.
Bref. Là, il y a une menace pour vous à cet endroit-là, Farhad Khosrokhavar. Début septembre, dans un quotidien du soir, vous nous mettiez en garde contre ce populisme qui vient. On est en train de devenir pour vous un pays d'intolérance?
C'est pas seulement question de la France. Moi, je crois que presque partout, vous avez en Europe et même aux États-Unis, regardez le phénomène Trump. C'est quand même pas un phénomène, je veux dire, acceptable. En France, vous allez en Allemagne, Pegida, en Belgique, Vlaams Blok. Vous savez, ces mouvements ont quand même, ils sont quand même plutôt en progrès. Et moi, personnellement, je me pose la question de savoir comment gérer cela. Dans un avenir prévisible, avec des phénomènes qui deviennent presque pathologiques. Burkini, dans un pays où il y a quand même plusieurs millions de chômeurs, où il y a énormément de quelques dizaines de burkini deviennent l'expression de l'identité nationale ou la contre-identité nationale. Bref, on est quand même dans une société où il y a de vrais problèmes d'identité, comme des problèmes d'économie, de gestion de la mondialisation et de vivre ensemble.
Et où, pour vous, on entretiendrait des polémiques sans fond et sans fin? Peut-être une question d'Antoine Mercier, et après on part derrière les
Vous avez des solutions, au moins des pistes, parce que vous parlez de...
Ce sera dans
travail.
Le livre dont je vous parle, avec Michel Wieworka. On essaie de de partir du constat que le modèle multiculturel, d'abord, n'est pas adapté à la France, et puis d'autre part, même là où elle est appliquée, n'a pas des résultats
très convaincants. Donc, qu'est-ce qu'il faut
comme
modèle ? Le modèle traditionnel français ne marche pas, le modèle multiconfessionnel non plus, donc
exactement.
Troisième solution.
Il faudrait plutôt une forme par le bas. Est-ce qu'on ne peut pas monter un phénomène citoyen par le bas, avec des formes de dialogue inédites entre, pour prendre par exemple le cas des juifs et des musulmans, vous savez, quand il s'agit de les mettre face à face, on appelle un rabbin et on appelle un imam. Mais non, il faudrait vraiment autre chose. Il faudrait qu'il y ait une possibilité d'échange de vues avec la mise en évidence des incompatibilités, des sujets qui fâchent, des problèmes qui ne vont pas, et qu'il y ait de manière beaucoup plus élargie la constitution d'une société civile avec un rôle moins important de l'État, pas au sens économique du terme, mais au sens d'intermédiaire. En France, l'État est, si vous voulez, l'instance qui intervient constamment entre les citoyens. Il faudrait que les citoyens apprennent à gérer leurs questions, leurs problèmes, en grande partie, à l'écart de l'État, même si par la suite on a besoin de l'État, on y fait appel, mais que l'État ne soit pas l'acteur principal. Moi, j'ai l'impression qu'on peut construire à partir d'une vision sereine de la République une nouvelle façon de vivre ensemble que un certain nombre de groupes pourraient promouvoir expérimentalement, et pour qu'il y ait la possibilité de vivre ensemble. Sinon, on sera en chien de faïence, vous savez, les uns détesteront les autres, on aura des tensions, il y aura quelquefois de la violence, et je ne pense pas que si cette violence s'accentue au-delà d'un certain seuil, ce soit une bonne chose pour la démocratie.
Alors, on ne va pas vous faire parler plus encore de ce prochain ouvrage qui paraîtra avec Michel Vivorca, mais bien de celui qui vient de paraître, Prison de France, prison avec un S. On va parler peut-être d'abord de votre démarche de sociologue avant d'en venir au fond. 3 ans d'enquête, vous êtes allé dans 4 prisons de France que vous avez arpentées, vous y avez rencontré toutes les personnes qu'il était possible de voir dans cet univers carcéral. Premier chapitre, la relation complexe, justement celle entre détenus et surveillants. Pourquoi vous avez choisi de donner la parole à tous et à toutes, une parole qui est retranscrite souvent à l'état brut dans cet essai? C'est dans cette confrontation des regards et des mots pour vous que la réalité sociologique de ce monde, voire une certaine vérité, peut apparaître?
Vous savez, je crois que la relation surveillant-détenu est fondamentale en prison. D'ailleurs, je ne suis pas un innovateur absolu. Il y a énormément de sociologues et d'anthropologues qui ont fait des travaux remarquables que je cite et qui ont ouvert la perspective et la voie. Je ne fais qu'emboîter le pas et apporter, si vous voulez, mon petit grain de sel, en quelque sorte. Mais l'essentiel est de voir la complexité de cette relation. Et puis, le carcéral, si vous voulez, ça pose la question de la liberté, ça pose un certain nombre de questions quasiment insolubles. Dans une démocratie, on ne peut pas ne pas punir, entre guillemets, parce que ce sera alors une société de 20 États, les gens vont se punir entre eux, ou bien ce sera la société de la surveillance généralisée, mais il faut quand même raison garder. Et moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas normal qu'en France, et d'ailleurs en cela aussi, c'est un phénomène occidental et européen, les prisons soient devenues des asiles psychiatriques, des maisons de fous. Il y a le tiers de la population carcérale qui a des problèmes psychiques importants.
Qui avant n'était pas là, qui avant était dans les hôpitaux psychiatriques.
C'était pas le cas, il était dans les hôpitaux psychiatriques. On a fermé les hôpitaux psychiatriques d'abord parce que ça coûte cher. Vous savez, un lit d'hôpital psychiatrique coûte 10 fois pratiquement plus cher que le même lit dans une maison d'arrêt. Ça coûte aux alentours de 90 à 100 euros et dans un hôpital psychiatrique, 900 à 1000. Dans une maison centrale, ça coûte un peu plus, 120 euros. Bon, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une idéologie qui est derrière. Vous savez, il y avait même des idéologies de gauche et d'extrême gauche. Les gens qui ont des problèmes mentaux, si vous voulez, sont comme nous. Il ne faut pas les mettre dans des systèmes fermés. Il faut qu'il soit dans la rue, il faut que ce soit dans la vie, etc. Il y avait cette idéologie humaniste.
Dans les années 70, oui.
Voilà, 70, et qui a le mouvement antipsychiatrique, par exemple, tout ça. Et ça a donné naissance à quoi? On a fermé les lits d'hôpitaux, et puis on a mis dehors les gens. Évidemment, ils font des bêtises, et après on les met en prison. Et puis voilà, la prison se transforme en une sorte d'hôpital psychiatrique. J'apporte le constat des médecins, des psychiatres, des infirmières et surtout des détenus aussi. Il y en a certains qui sont vraiment des gens déséquilibrés mentalement et dont le lieu de résidence ne devrait pas être en prison.
Ça a été difficile d'obtenir toutes ces paroles ?
Au début, c'est très difficile, mais il y a aussi un phénomène de téléphone arabe, entre guillemets. Je veux dire, vous parlez avec quelqu'un, après, il trouve que c'est intéressant. Parce que d'habitude, ils s'attendent à ce qu'on leur pose des questions. Et puis, ils me demandaient, il y en a qui me disaient, par exemple, une fois, je suis rentré, c'était entre 2000 et 2003, mais ça s'était accentué. Et le gars me dit shalom. Mais je dis, mais pourquoi shalom? Après tout, on est en France. Hein. Bon. Il me dit, parce que je crois que tu travailles pour les services israéliens. En quoi? Donc, ce sentiment que vous travaillez pour quelqu'un d'autre, si vous voulez. Il faut casser cela. Ça prend du temps. Ils ont vu que moi, ça m'intéressait d'avoir leur vie quotidienne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as du mal à t'entendre avec des surveillants? Et comment tu te débrouilles dans la vie avec d'autres détenus? Alors le gars qui me raconte, par exemple, vous savez, dans les prisons, dans les maisons d'arrêt, il y a quand même, surtout les maisons d'arrêt des grandes villes, qui jouxtent les grandes villes, il y a une surpopulation carcérale. Et il y a un sous-effectif en surveillant. Il y a un surveillant pour une centaine de détenus, et ça c'est quand même catastrophique, parce que ça déshumanise et le surveillant et le détenu. Et il y a aussi deux à quelquefois, trois détenus dans une cellule de 9 mètres carrés. Et encore une fois, ce n'est pas la faute des surveillants, ce n'est pas la faute de l'institution carcérale, c'est la faute du fait qu'il n'y a pas assez de place ou qu'on met trop de gens dedans. Alors, vous voyez, à trois, par exemple, à trois, c'est très dangereux. À trois, si vous avez, il y en a un qui est psychopathe, il peut s'allier à l'autre et violer la troisième personne. C'est très dangereux. Le triangulaire n'est pas 2+1 dans ce cas-là. De même, quand on est à deux, par exemple, moi j'ai des détenus qui me racontaient, il y en a un qui lâchait des vents, et moi je m'excuse de vous dire, ouais, lâchait des vents et il niait qu'il était lui, et puis il n'y avait que nous deux. Alors il fallait décider.
Qui
alors,
deux
j'ai menacé de le tabasser, et puis après 2-3 semaines, on m'a changé de cellule. Ou bien il y en a un qui, si vous voulez, là aussi fondamentaliste, et l'autre qui est laïque, et il se trouve que leur vie devient insupportable quand il y a un troisième qui arrive, qui est lui hyper fondamentaliste. Et donc il y a des incompatibilités, et tout ça doit être géré. Et la relation entre surveillant et détenu est une relation très complexe. D'abord, une part d'illégalité assumée. D'ailleurs, on n'a pas le choix. Par exemple, un détenu passe, mettons, du sel pour que vous le passiez à l'autre détenu dans une autre cellule. C'est interdit. Mais ils le font parce que, de toute façon, on n'a pas le choix et tout le monde le sait. Et il y a autre chose comme ça dans la vie quotidienne.
Dans ce rapport, je voudrais juste citer la phrase que vous citez sur le dialogue entre le détenu et le gardien. Le détenu dit « Moi, je vais sortir dans 6 mois, mais toi, tu seras toujours là ». Ça en dit très long sur cette espèce de dualité, de couple où on ne sait plus qui est enfermé et qui surveille qui.
Exactement.
Autrement retranscrit, surveillant, je vais partir d'ici dans quelques temps, mais vous y êtes pour 30 ans et plus. Quant au surveillant, il dirait au détenu, vous êtes dedans, je suis dehors.
Il y a cette espèce de tension constante, si vous voulez, entre les deux. Et cette tension, d'ailleurs, on le voit aussi dans la prison des femmes. La prison des femmes, celle qui me dit, mais cette surveillance n'a pas de cœur. On l'appelle, je ne sais pas moi, la boa, enfin, je ne me souviens plus, un serpent. Un surnom de serpent. Et je lui dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai voulu téléphoner à ma fille qui vient d'avoir un enfant. Elle m'a refusé parce que c'était hors du temps normal, enfin hors du temps officiel. Bon, il y a énormément de problèmes, si vous voulez, liés à l'affect, à la relation interhumaine et au fait que le surveillant aussi est débordé. Je veux dire, il est débordé, il devient plus dur et l'autre ne comprend pas. Et donc, on affectivise les relations et il y a des tensions. Et puis, il y a surtout le fait que les surveillants ont aussi peur. Par exemple, moi, je raconte comment... Il me dit, quand il y a 3 personnes dans la même cellule, le matin, quand il faut ouvrir la porte, j'ai peur. Parce qu'il se peut qu'il y en ait un qui soit un peu fou et que, pour aucune raison valable, pour aucune raison tangible, pour aucune raison qu'on puisse deviner, si vous voulez, puisse m'agresser.
Pourquoi plus à 3 qu'à 1? Vous dites dans une cellule de 3.
Parce que 3, c'est beaucoup plus dangereux. Ils sont 3.
D'accord.
1, il y en a quand même, okay. On peut le maîtriser un peu plus. 3, comment voulez-vous? Et puis, les 3 peuvent s'entendre et puis vous mettre dans une situation extrêmement difficile. Donc, vous savez, il y a aussi un problème de nombre. Un surveillant n'a pas d'arme. Et par conséquent, quand il pénètre dans une cellule, il y a un rapport homme à homme. D'ailleurs, j'essaie de montrer comment il y a des détenus qui sont braqués, qui sont très musclés et qui font peur aux surveillants. Parce qu'il y a un moment où vous êtes seul. Après, on peut le punir, le détenu. Mais ce moment-là, il peut vous casser la gueule. Ou bien il peut, par exemple, vous savez, il fourbissent les fourchettes qui se transforment en couteaux et ils peuvent vraiment vous le faire pénétrer dans la veine jugulaire. Alors qu'est-ce que vous faites ? Après, une fois qu'on est mort, on peut le punir. Mais entre-temps, moi j'ai des cas comme ça que je cite, des surveillants qui ont été, par exemple, l'huile bouillante, le détenu qui était un peu fou. Alors il jette sur le surveillant l'huile bouillante le matin. Alors, évidemment, blessure de troisième degré, etc. Et pendant plusieurs années, il en a les séquelles, si vous voulez. Ou bien les détenus qui s'entre-déchirent.
Farhad Khosrokavar, vous insistez effectivement beaucoup dans cet ouvrage sur la relation complexe entre les détenus et les surveillants. Vous soulignez que ce malaise carcéral que vous décrivez touche aussi bien les détenus que les surveillants, qui a vraiment beaucoup de parallèles et de ressemblances à faire entre ces deux mondes. Vous insistez aussi sur ce sentiment de dépossession que peuvent éprouver aujourd'hui les surveillants, cette perte d'autorité et dans ce rapport, ce face-à-face, mais pas que. La prison, est-ce cette grande oubliée, cette honte de la République, comme on l'a souvent décrite ? Quelques paroles ont réussi à passer à travers les barreaux, rarement sans filtre. Écoutons.
Là, si je vous décris en direct, ce que je peux constater, c'est que il n'y a pas d'autoroute, c'est des fourmilières de rats. C'est des rats, des cadavres. Comment je suis au rez-de-chaussée ? Donc si je laisse ma fenêtre ouverte, ils vont grimper. Je suis à quoi ? Même pas 50 cm du sol. Je peux même pas vous les décrire. C'est répugnant, l'odeur. Les carcasses en décomposition, le bruit qu'ils font, c'est impressionnant. J'arrive même plus à dormir. Je peux plus. C'est insupportable. Ils sont en infraction totale avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est un traitement inhumain.
On frôle actuellement les 70 000 détenus en France pour un taux de 58 300 places. Le nombre de détenus en surnombre est de 11 000 actuellement et il est de 10 000 de plus qu'il y a 10 ans. Aucun des droits fondamentaux qui sont accordés par la loi aux détenus ne peuvent être respectés dans ces conditions.
Il y a eu l'année dernière, en 2015, 4000 agressions physiques en détention. Et ce chiffre traduit une aggravation, puisque au 1er août, il y a eu en 2016 déjà 2500 agressions physiques dans les établissements.
La prison dispose d'un certain nombre de moyens de contrainte spécifiquement dirigés vers ces radicaux, on va les appeler comme ça, qui sont des gens extrêmement surveillés. Ça, c'est une chose. Mais il y a une autre chose qui est la pratique normale d'une religion. Et je dois vous dire à cet égard que pour beaucoup de musulmans qui ne sont pas radicaux et qui souhaitent pratiquer leur religion, ils ont le sentiment, souvent, à tort ou à raison, d'une certaine discrimination.
Vous avez pu entendre les anciens et l'actuel contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, Adeline Hazan, également le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, ainsi que ce témoignage qui ne vous aura pas échappé, Farhad Khosrokavar, d'un détenu de la prison de Sequedin dans le Nord, prison que vous avez visitée, qui fait partie des 4 prisons où vous vous êtes rendu, sur lesquelles vous avez enquêté. La justice, suite à ce témoignage, vient justement d'ordonner à la prison de se débarrasser des rats. Fourmilière de rats, dit le détenu, ce témoignage qui a pu s'échapper à travers les barreaux avec des images aussi. Et ça arrive très souvent que la Cour européenne des droits de l'homme, ça arrive très souvent aussi que la justice française blâme, condamne les prisons pour le manque d'hygiène, pour la déshumanisation quelque part qui s'y opère, pour les violences, et on a l'impression que rien ne change.
Vous savez, pour que ça change, encore faut-il en avoir les moyens. Si vous voulez, l'administration pénitentiaire, c'est un peu la tête de Turc au sens où on l'entend. Le mot Turc n'a aucun sens péjoratif là-dedans. C'est vraiment la manière dont on tape dessus, si vous voulez. Et il fait le dos rond. Alors, bon, on sait très bien que le docteur Vasseur avait fait un livre sur la santé. Il y a aussi un phénomène médiatique. C'est-à-dire, une fois qu'une prison révèle ses insuffisances, ses déficiences, etc., il y a comme le braquage de la lumière dessus. Mais on oublie qu'il y a quand même 200 établissements pénitentiaires en France. Tous n'ont pas les mêmes problèmes. Mais il y a vraiment un problème de pénurie, de manque de personnel, de surpopulation, d'absence de moyens.
Vous savez, là, ce que vous nous dites, c'est pas un manque de moyens, c'est une absence de volonté.
absente politique. Volonté, c'est les parents pauvres de la République.
La grande oubliée.
Si vous voulez, beaucoup de gens à qui vous demandez à ce sujet est-ce qu'il faut améliorer la condition des détenus, vont diront oui, mais moi je suis dehors, je n'ai rien. Et vous, dedans, vous voulez faciliter la vie des gens qui ont quand même commis des crimes, qui ont commis des délits, etc. Moi, j'ai des cas comme ça, des détenus, des surveillants qui sont jaloux de détenus qui, par exemple, peuvent faire des études en prison alors que eux, les surveillants, ne peuvent pas. Vous voyez, il y a aussi un vrai problème de société. Il faudrait que la société deviennent plus tolérantes, comprennent que des gens qui ont commis des crimes, des délits, il faut les traiter humainement. Et pour cela, il faudrait, à mon sens, que les gens aussi changent de perspective.
Et vous l'écrivez, pour vous, la question fondamentale est celle de l'humanisation de la prison, ou plus exactement, l'atténuation de la déshumanisation et la circonscription du nombre des détenus au strict minimum, leur assurant des capacités d'amendement et d'intégration dans la société. Farhad Khosrokhavar, cela est possible, voire souhaitable pour tous les détenus, mais aussi, et par ricochet, pour les autres citoyens hors de prison. Il y a eu une annonce quand même assez importante qui a été faite hier, on va y revenir, parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, des regards, des projecteurs se tournent vers la prison. C'est la question de la radicalisation qui est quand même au cœur aussi de cet univers. La fin des unités dédiées aux détenus radicalisés a été annoncée hier par le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas. Ces unités étaient expérimentées dans 4 prisons de France, et notamment à Fresnes et à Fleury, où vous vous êtes rendu. Il y a un nouveau système qui va être mis en place avec la fin de ces unités, un système d'isolement des profils dangereux, des très dangereux, et puis une prise en charge, annonce le ministère, spécifique de certains détenus qui pourraient se radicaliser plus qu'ils ne le sont déjà. Farhad Khosrokhavar, vous qui avez travaillé sur cette question de la radicalisation, il était bon de mettre fin à ce programme? Les unités n'étaient pas la solution.
Personnellement, j'étais très sceptique à l'égard du programme qui consistait à mettre tous ceux qui avaient été, si vous voulez, condamnés pour association de malfaiteurs, etc., ou radicalisés, à part des autres. Parce que il y a une gradation dans la radicalisation. On n'est pas radicalisé comme de manière manichéenne, noir ou blanc. Il y en a qui sont entre les deux. Il y a beaucoup de gris. Il faut qu'on comprenne une chose, c'est que il y a une fraction de ces jeunes qui sont radicalisés de manière quasi absolue. On ne peut pas leur faire changer d'avis. Moi, j'en ai vu. C'est du béton. Rien ne pénètre. Mais c'est une petite minorité. Il faudrait les séparer des autres. Parce que, précisément, les autres, on peut essayer de les faire amender, de faire revenir sur eux-mêmes, de les faire réfléchir de manière critique sur leur propre trajectoire, faire prendre conscience du fait que la voie de la violence au superlatif n'est pas la meilleure voie pour établir la justice dans le monde. Je veux dire, ces gens-là, cette autre partie, est amendable.
À partir de quelle grille? Parce que c'est ça la question. Vous dites blanc, gris, noir, il faut éviter que le blanc devienne gris et le gris noir, mais vous parlez aussi de ce phénomène, malgré tout, d'attraction que peut représenter la pratique religieuse dans
oui,
votre livre.
Oui, de toutes les façons.
Et l'engagement religieux.
Vous savez, en les séparant de manière étanche, comme on l'a fait, en mettant les radicalisés ensemble, d'abord, l'aspect positif, c'était que les gens psychologiquement fragiles, par exemple en prison, n'étaient pas influencés. Parce qu'ils sont quand même... Quand on est psychologiquement fragile, ouais, on peut très facilement, si vous voulez, se radicaliser, entre guillemets, sous l'influence d'un gourou, d'un leader charismatique ou d'un psychopathe. Mais le problème, c'est que vous allez créer un ensemble où les indécis, ceux qui ont des doutes, les dubitatifs, seront sous l'influence des endurcis. Je veux dire, si vous mettez des endurcis avec des dubitatifs, ce n'est pas les endurcis qui vont douter. C'est les dubitatifs qui vont, puisqu'ils sont fragiles, ils sont dans une situation, si vous voulez, d'incertitude, d'angoisse. Ils vont se ranger aux côtés des endurcis. Il faut les séparer. L'expérience d'Abu Ghraib, si vous voulez, en Irak, est quand même là. L'élite politique de l'État islamique de Daesh a été constituée dans Abu Ghraib, la prison où les Américains ont mis tous ces gens-là. C'est très dangereux de mettre sans distinction aucune si vous voulez, tous ceux qui sont radicalisés dedans.
Il ne faut pas les mettre avec les non-radicalisés, il ne faut pas les mettre ensemble, donc il faut les traiter individuellement.
Il faudrait qu'il y ait une gradation, il faudrait qu'il y ait une sorte d'appréciation de degré de radicalisation. Les radicalisés absolus, il faut les séparer parce qu'ils seront violents et ils iront jusqu'au bout. Par contre, ceux qui ne sont pas absolument radicalisés, il y en a des types qui sont des traumatisés, il y en a qui sont des repentis en puissance, il y en a aussi qui sont des indécis. Ces gens-là, il faudra les faire réfléchir. Le mot déradicaliser a un contenu, si vous voulez, directif qui n'est pas approprié. Mais leur faire prendre conscience de manière critique de leur position et de leurs valeurs. Et ça, c'est possible, je pense, sur le moyen terme, sur un an ou deux, des discussions, des débats avec des théologiens, avec des psychologues, avec des psychanalystes, des psychiatres, avec des gens, si vous voulez, qui ont des responsabilités même dans les renseignements généraux.
Farhad Khosrokavar, pas de vaccin contre cette tentation, nous dit le ministre de l'Intérieur, qui ne veut plus parler de déradicalisation. Est-ce que c'est la fin en France de cette ambition de déradicalisation? Et question conséquente ou subséquente, et ce sera la dernière, à propos de votre travail, est-ce que vous sentez un intérêt des institutions pour ce que vous faites et ce que vous en dites aujourd'hui?
Vous savez, un chercheur est par définition narcissique, et donc il pense que les institutions ne s'intéressent jamais suffisamment.
Non, mais la question, c'est ce qui est inaudible.
Mais disons que si on surmonte son narcissisme primaire, on peut penser qu'il y a un intérêt beaucoup plus évident des institutions pour ce que nous faisons qu'il y a quelques années. Parce que on a déjà quelques centaines de jeunes qui sont venus. Il va y en avoir plusieurs centaines qui vont revenir. Du fait même de la débandade de Daesh, que ce soit à Mossoul ou que, ensuite étendue dans d'autres parties du territoire syrien. Bon, qu'est-ce qu'on va en faire? D'un millier de gens, enfin plusieurs centaines de jeunes, on va les mettre en prison entre 5 et 10, 12 ans, et ils vont sortir, ils seront encore jeunes, ils seront dans leur trentaine, pour une grande partie. On va mettre des policiers derrière chacun, mais ça ne marchera pas. Il faudra essayer de convaincre une partie d'entre ces jeunes, si vous voulez, de porter un regard réflexif sur eux-mêmes, sur les autres, et faire revenir, si vous voulez, sur cette vision extrêmement violente du religieux qui est la leur.
C'est un travail que vous allez continuer à mener, Farhad Khosrokavar. Vous allez dire oui ou non?
Moi, c'est un peu le testament que j'ai fait sur la prison, parce que c'est quand même très déprimant. Et je risque de...
Oui, parce que les gardiens vont vous dire, vous y êtes pour longtemps dans la prison après.
Donc, il faudrait qu'il y ait des jeunes qui auront vraisemblablement la vocation, et il faudrait qu'il y ait beaucoup de monde qui travaille sur ces phénomènes-là, parce que le danger est quand même un danger collectif. 1000 jeunes qui pourraient ensuite faire du mal, eh ben, il faudrait empêcher cela. Pas uniquement de manière coercitive, mais aussi par la conviction.
Et être entendu. Merci beaucoup, Farhad Khosrokavar. Prison de France avec un S, violence, radicalisation, déshumanisation, surveillant et détenu, parle un ouvrage qui est paru chez Robert Laffont. Merci à vous tout de suite.
Merci à vous.
Place au médiateur.
La grande table. Le rendez-vous du médiateur.
Place au rendez-vous du médiateur des antennes de Radio France, Bruno Tennès, bonjour.
Bonjour Olivia Gessler, bonjour à tous.
Retour aujourd'hui sur une série d'entretiens qui ont été diffusés la semaine dernière, évidemment sur France Culture, ceux d'Anne Pinjot avec l'historien Jean-Noël Jeannonet. Et pour répondre aux questions de nos auditeurs qui vous sont transmises, vous recevez aujourd'hui Sandrine Trainer, directrice de France Culture.
Bonjour Sandrine Trainer.
Bonjour.
Alors ces entretiens qu'on peut qualifier d'exceptionnels ont suscité des réactions totalement opposées. Alors on va y revenir, mais tout d'abord Sandrine, en deux mots, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'émission à voix nue, quelle était la teneur de ces entretiens?
Eh ben, écoutez Bruno, c'était des à voix nue. Je ne sais pas comment vous répondre mieux que cela. C'est-à-dire que, conformément à cette grande collection d'entretiens qui existe depuis des dizaines d'années, c'était du lundi au vendredi, à raison de 2h30, découpé en 5 épisodes, l'histoire d'une vie, en l'occurrence l'histoire
de l'autre amour, en quelque sorte, de François Mitterrand.
Enfin, à mes yeux, non. À mes yeux, non. C'est l'histoire d'Anne Pinjot, c'est-à-dire l'histoire d'enregistrement qui remet Anne Pinjot comme sujet. Cette femme a toute sa place, évidemment, le dirait même une incongruité sur l'antenne de France Culture. C'est une femme de culture, c'est une historienne d'art, c'est une des plus grandes spécialistes de la sculpture en France. Et nous allons très, très bientôt fêter les 30 ans du musée d'Orsay. Elle a été de toute cette aventure.
Alors comment vous vous y êtes pris pour qu'Anne Pinjot accepte finalement de se confier sur une antenne ?
Écoutez, c'est la grâce de Jean-Noël Jeannet, c'est la grâce de France Culture. C'est-à-dire que Anne Pinjot, effectivement, n'avait jamais pris la parole. On pourrait d'ailleurs en parler, donner une voix aux femmes qui n'en ont pas. C'est un sujet. Et voilà, je fais une incise, mais je pensais en l'écoutant aux mémoires d'une jeune fille rangée, par exemple, de Simone de Beauvoir. Mais on pourra en reparler. Donc, en l'occurrence, je crois qu'Anne Pinjot a accepté cette proposition de Jean-Noël Jeannet, d'une part parce que Jean-Noël Jeannet avait accompagné l'édition scientifique des lettres qui ont été publiées par les éditions Gallimard, des lettres de François Mitterrand à Anne Pinjot, et d'autre part parce que Jean-Noël Jeannet est historien, qu'il est historien sur France Culture et qu'elle savait que France Culture respecterait sa parole, et nulle part on peut avoir le temps que l'on a à France Culture avec cette qualité d'écoute.
D'écoute, exactement. Alors, quand même, pour certains auditeurs, ces entretiens étaient, comme le dit Gilberte, du grand voyeurisme. Pour Jean-Charles, France Culture s'est transformée en closer. Et Louise parle d'indécence et d'indiscrétion. Alors, est-ce que c'était si impudique que cela ?
Bah, écoutez, je renvoie tout le monde à l'écoute des entretiens. Non, bien sûr que non. C'est un peu une blague. C'est un peu une boutade. Non, bien sûr. C'était extrêmement pudique. Je ne crois pas qu'il y ait eu la moindre révélation. Ce qu'il y a eu, c'est une voix qu'on n'avait jamais entendue, au sens propre comme au sens figuré. Du reste, c'est une voix qui a étonné tout le monde.
Une voix très jeune.
Très vive.
Très très jeune.
Ouais, très claire, très vive. Et puis une voix qui raconte toute une histoire française. Pour moi, cette histoire, c'est vraiment une histoire française. Et quand on écoute dans le premier épisode, Anne Pinjot raconter son histoire de famille, comment elle a grandi dans cette famille bourgeoise et catholique de province, comment il était essentiel pour elle d'être une femme libre, autonome, indépendante, comment elle a été amenée vers les études et cette indépendance dont elle a toujours fait preuve. Oui, je pensais à Simone de Beauvoir et aux mémoires d'une jeune fille rangée. Et est-ce que c'était impudique, les mémoires d'une jeune fille rangée ?
La question est vraiment posée.
Oh ben moi, j'y réponds.
Oui, je me doute.
Bien sûr que non.
Et tout le monde répond, bien sûr. Alors, à côté de tout cela, il faut être honnête aussi. En effet, les messages positifs ont été beaucoup, beaucoup plus nombreux. Hubert, par exemple, s'adresse à Jean-Noël Jeannet pour lui dire « C'était un régal d'intelligence, de sensibilité, d'élégance, d'écoute de l'autre, de partage. » Et Sandra ajoute « Nulle part ailleurs qu'à France Culture, Anne Pinjot aurait pu s'exprimer ainsi. C'était la courtoisie, la culture, la vivacité d'esprit que l'on n'entend plus. » Alors Sandrine, qu'aviez-vous à l'esprit vraiment en décidant de diffuser une telle série d'entretiens ?
Elle a raison, pardon. Elle a raison, notre auditrice. C'est vraiment une histoire de radio, ces entretiens. D'ailleurs, on ne les envisage qu'en radio. Ils reposaient beaucoup sur la qualité de l'échange et sur ces voix qui jaillissaient au cours des entretiens. Qu'est-ce qu'on avait à l'antenne ? Écoutez, qu'est-ce qu'on avait en tête en mettant ces entretiens à l'antenne ? Écoutez, tout simplement faire ce que je viens de vous dire, faire entendre une grande histoire française qui mêle ces passions françaises que sont au fond la politique, la culture et l'amour. C'est bien ça dont il s'agit. Et puis c'était accompagné. On s'est posé des tas de questions. Quand ces lettres sont sorties, on a eu, grâce à ces entretiens, les réponses. Et je crois qu'il faut s'arrêter. On pourrait en parler beaucoup plus longtemps.
Et gros succès du podcast aussi.
Absolument. On a été très écoutés.
Merci Sandrine Trainer, directrice de France Culture, pour toutes ces précisions.
Merci beaucoup à vous, chers médiateurs des antennes de Radio France. On vous retrouve dans 2 semaines, ce sera le jeudi cette fois. Et on peut vous écrire sur votre site médiateur.radiofrance.fr. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table.